journée. Merci d'être venus en cette fin d'après-midi afin de découvrir une page d'histoire qui concerne directement et indirectement la ville de Lessines. Pour commencer, nous sommes dans les murs de ce site hospitalier qui fut bâti entre 1242 et 1255, période qui a connu de son vivant un illustre, je dirais presque inconnu de la plupart d'entre vous, un certain Yves qui naquit en cette bonne ville de Lessines. Ville de Lessines reconnaissable par son blason reprenant, je dirais pas, les armes du seigneur d'Audenarde, qui se retrouve ici sur un des panneaux présents ici dans cet hôpital, mais au moins les couleurs, à savoir l'or et l'émail de gueule. Nous en parlerons d'ailleurs un peu plus tard. Je ne vais pas épiloguer sur celui-ci, ça me permet de présenter l'église au milieu du village, car il y a beaucoup de points d'interrogation sur l'usage même de ces armoiries. Indépendamment de cela, cet hôpital fut créé par Alix de Rossois, cette dame d'honneur de Blanche de Castille, aux trois roses et pas quatre, comme certains ont voulu nous le faire croire. Je passe sur l'épisode qui mérite un peu de fabulation. Indépendamment de ceci, je vais vous parler des centuries et entre autres de cette œuvre qui est attribuée à Yves de Lessines, dit de Lessines pour être exact. En 1999, le philologue Rudy Gambier, ici présent pour ceux qui ne le connaissent pas, proposa à la surprise générale que l'auteur des fameuses prophéties qualifiées par certains d'astronomiques n'était pas de la main d'un certain Michel Notre-Dame, le dieu de particules, je laisse tomber, mais entre autres mieux connu sous son patronyme latinisé, à savoir Nostradamus. Mais il l'annonce ouvertement dans un ouvrage qui parut en 2000, Le Dernier Templier, et une décennie plus tard, dans l'œuvre dit du vieux moine, sous-entendu le vieux moine, Yves. Quelques mois plus tard, par rapport à cette parution, est organisée par l'ASBL Ivo de Lessinis, la première balade suivant les pas tracés par Yves, et cela conduisant de Moutier les deux églises classiquement présentes par l'église Saint-Martin et la chapelle Notre-Dame jusqu'à un lieu des terres de l'abbaye de Cambron à Waudec, à savoir la ferme de Combrochaux. La thèse de Rudy Gambier est claire. Nostradamus n'a jamais écrit les centuries. Je reprends dans son ouvrage, dans ses ouvrages, puisqu'ils sont au nombre de deux, trois constats remarquables qui sont intéressants pour le développement d'aujourd'hui. À savoir qu'il repère plus de 200 toponymes régionaux dans les centuries. Difficile d'un point de vue statistique d'accepter que cette œuvre soit réellement écrite par un Provençal. Deuxième niveau, il fit deux démonstrations astronomiques, une intéressante correspondant à l'éclipse solaire du 11 août 1929, ainsi que la position de la Lune qu'il put observer à la Noël 2006, mais dans l'orientation plein sud, à minuit, face au mont de Mavaux. Enfin, nous parlerons de la traduction qu'il évoque des tables énigmatiques donc de Moutier. En effet, cette table ayant résisté depuis des siècles aux meilleurs spécialistes du déchiffrage des services secrets, qu'ils soient français, allemands, américains. Il proposa pour ce faire de faire appel aux voyelles présent dans le titre du seul quatrain, en latin présent dans l'œuvre, dite des centurions. Précaution de règle contre les sortes critiques, je n'irai pas plus loin. Un élément certain, c'est que ce quatrain en latin a été identifié comme provenant d'une œuvre grecque écrite au IIIe siècle après Jésus-Christ par un certain de Jean Bic, et je dirais quasiment mot pour mot. Donc, cette œuvre existait non seulement en grec au IIIe siècle, fut traduite par Fircin Marcelin quelques siècles plus tard en latin, et enfin, on connaît une parution italienne de Pietro Trinito vers 1509, c'est-à-dire quasiment un demi-siècle avant la parution, si je fais référence à l'édition d'Utrecht, en 1557. Dans les centuries, il existe les clés de traduction, entre autres qu'il faudra modifier l'ordre des phrases, pas des mots, hormis le vieux langage. Le vieux langage, dans ce cas-ci, c'est le quatrain en latin présent dans les centuries, et je rappelle, c'est le seul. Cette table énigmatique, ayant résisté au déchiffrage, vous indiqueront après insertion et modification de l'ordre des phrases, indiqueront le chemin qui doit conduire au lieu dit, bien connu comme étant l'abri blanc, le blanc scourcheur. Lieu présent de réserve du trésor, j'aime pas le terme, on va dire, de certains éléments importants de l'ordre du temps. Prophétie. Est-ce que Michel de Notre-Dame est réellement le prophète, sachant que le texte est bien écrit au futur, qu'il parut pour la première fois le 2 mai en 1555 chez un éditeur qui est Massé Bonhomme à Lyon. Nous avons là les 353 premiers quatrains de l'œuvre apparue de je ne sais où. La question est, est-ce bien de la main de Michel Notre-Dame, représenté ici après son décès, sur commande de son fils, en médecin. Nous dirons maître est médecine, puisque le titre de doctorat ne fut présenté et inventé en France qu'en 1575. Nous retrouvons l'angelot ici en haut à main gauche, présentant le blason en principe de ses armoiries, à savoir l'émail de gueule chargé d'un rouet d'or, c'est-à-dire une roue ouverte entre les rayons. C'est le symbole des origines juives de sa famille. En effet, au Moyen-Âge, comme malheureusement pendant notre dernière guerre, où on a utilisé et obligé l'usage de l'étoile jaune, à l'époque au Moyen-Âge, on obligeait chaque juif à porter le rouet d'or, et cela sous ordre du roi de France, sur le ventre et sur le dos de la tunique. Donc vous voyez l'histoire est une répétition au cours du temps. Je passe sur les cartelés où il s'est associé par mariage avec la famille de Saint-Rémy, mais là, les armoiries sont dites apocryphes. Passons à l'autre auteur proposé par Ludwig Cambier, à savoir, dans ce cas-ci, Yves, prieur de son état avant 1328, mais aussi le 15e abbé de l'abbaye Notre-Dame de Cambre. Vous retrouvez d'ailleurs, représenté ici, puisque je n'ai pas une photo, et encore moins un tableau, ces armoiries dites de dignité. C'est la première proposée sous cette version. Elle date du début de son prélat, à savoir 1328. Reprenant en arrière-plan le fascé de 6 pièces de gueule et d'or, à savoir les armoiries du seigneur propriétaire de la ville où il naquit. J'insiste. Donc rien à voir avec celui de la ville de Lestine, ceci dit au passage. Indépendamment de cela, elle est chargée d'une clé d'argent. Cette clé d'argent fait référence, comme on aime le dire, tout simplement au saint patron de la collégiale Saint-Pierre, donc une des clés de Saint-Pierre, détenue par le pape. Nous verrons que ces clés vont évoluer seules d'argent, puis d'or, puis par deux, argent et or, ce qui reste encore les clés papales à l'heure actuelle. Attention, je tiens à préciser que c'est un blason de dignité, armoirie de dignité, faisant référence à son origine, la ville de Lessines, du seigneur de Lessines, mais la clé du prieur de l'abbaye, à savoir l'économe, c'était sa fonction avant de devenir abbé. Donc on pourrait très bien annoncer que les véritables armoiries de la ville ont pour origine tout simplement les armoiries du casier d'abbé de l'abbaye de Cambon. L'œuvre est signée. L'œuvre est signée, même si elle n'a pas été écrite et dite par la suite, elle est signée de la main d'un cistercien. Première identification. Il faut savoir que les cisterciens ont une fâcheuse habitude, quand ils ne veulent pas se faire lire ou comprendre par tout à chacun, d'écrire en latin et puis en verlan. Hein, ripou contre ripou, on connaît le film, on a à peu près l'approche. Dans ce cas-ci, si je regarde 1er centurie, 2e quatrain, 4e vers, ben, le divin pré-sassier, une manière assez habile de donner son nom sans le dévoiler à tout à chacun, et encore moins aux hommes ennemis du temple, il le définit comme « Yvain des prés » dans le jeu de mots. « Yvain » voulant dire « Yves »,« Ivo des prés » de « Pratis ». Nous retrouvons cette terminologie à plusieurs endroits dans les recueils disponibles en provenance du Moyen-Âge. Attention, la question est de se dire de quelle abbaye cistercienne provient-il ? Rien de plus facile, on peut dire qu'il a simplifié la tâche à notre philologue de service, M. Cambier. Venez cacher sous les têtes de saumon, ben, ils apparaissent dans une seule abbaye cistercienne, celle de Cambon. Je reprends ici une partie de la reproduction des fameux albums de Croy, qui ont été publiés en 1616. Ben, nous retrouvons ces saumons disposés en oblique de part et d'autre du tronc de l'arbre de vie, qui est le symbole, je dirais, des cisterciens en nos régions. Voilà nos têtes de saumon. Elles sont présentes et elles sont décrites texto dans l'œuvre. Ce qui est intéressant, après avoir identifié l'abbaye de Cambon, ben, c'est d'aller se plonger et de rechercher son histoire dans le recueil de l'abbaye. Toutes les abbayes possèdent un recueil, un peu l'histoire, retraçant entre autres, notamment, la biographie des abbés. C'est surtout celle-là qui nous intéresse, puisque nous cherchons le prieur, voire l'abbé Yves. Il en existe deux au monde, pas trois. Le premier, le plus ancien, prend fin en 1642 dans son histoire et actuellement dans les archives de l'archevêché de Malines-Bruxelles. Il fut envoyé un peu avant la Révolution française. L'autre ouvrage qui est plus récent et qui a fait parler de lui, dont voici la page dédiée à la biographie d'Yves de Lessines, provient du fonds du Val de Beaulieu, qui a acquis l'entièreté de l'abbaye, ses pierres, ses meubles et sa bibliothèque. C'est d'ailleurs cette pièce d'archives que le fameux colonel Monnier, bien connu, on va dire, à Mons, pour avoir publié est le seul publié l'histoire de l'abbaye de Cambron dans les annales du cercle archéologique de Mons en 1877 et en 1884, ben, il s'est inspiré in extenso de cet ouvrage, qu'il a d'ailleurs, comme il le dit lui-même, consulté dans la bibliothèque d'Adhémar du Val de Beaulieu. Que nous dit cette chronique ? Ben, que Yves est né à Lessing. Excusez, je vais l'écrire à la manière de l'époque. Identifié, attention, au XIIIe siècle, par la ville représentée ici en 1255, par le vieux rentier d'Audenardre, la ville représentée par ses murailles, la porte d'Arnould et cette brave chapelle, qui deviendra par la suite collégiale, dont on connaît sa rosace et sa croix, qui est déjà présente sur le fronton du sceau de la ville, du sceau des échevins de la ville. À l'époque, la ville n'a pas d'armoirie. Elle présente toujours Saint-Pierre sur son trône, ainsi que tenant dans sa main, à dextre, la clé de Saint-Pierre, qui défie évidemment cette collégiale. Alors nous sommes certains, car dans la biographie d'un autre abbé, Henri de Nivelle, qui décéda en 1250, que tous ses prédécesseurs, mais aussi ses successeurs, prendront comme surnom le lieu de leur naissance. Donc nous sommes certains qu'Yves est bien né à Lessing. Il est, entre autres, le fils de Yann, Jean, attention, la ville est flamande au XIIIe siècle, très à préciser, et son suzerain n'est autre que Jean Ier d'Audenarde, de la famille de Pamiers d'Audenarde. C'est un Yann Després, châtelain du Dilieu et de Alix. Alix est la mère d'Yves. Elle fut inhumée à l'abbaye de Cambron en 1265. Et contrairement à ce qu'on a tendance à dire ici dans cette brave maison, ce n'est pas Alix de Rossoir qui fut inhumée à Cambron, mais la mère d'Yves. Première information. J'en veux pour preuve qu'il existe une pièce d'archive dû à la signature d'un procès, on va dire ça ainsi, qui fut signé par la main d'Alix de Rossoy le 9 janvier à Augis de l'an de grâce 1268. Difficile d'être inhumé en 1265 et signé un acte d'archive 3 ans plus tard. Fils de Jean, dit de Quiévrin, attention, le suzerain, on va dire le seigneur, aussi bien de Lessing que de Flabec, ne va pas désigner le premier venu comme devant faire office de sa puissance seigneuriale, c'est-à-dire la basse, la haute et la moyenne justice, sur sa bonne ville de Lessing. C'est son représentant direct. Et il fait le choix dans la noblesse ou la petite noblesse, et pas, je dirais, le premier venu. Le premier venu en question, c'est pas n'importe qui, c'est Després dit de Quiévrin parce qu'il provient de Quiévrin. Sa famille est une branche cadette de la maison de Quiévrin. Il a en charge un tiers de la seigneurie, ainsi que le château et la seigneurie de Bézieux, le château Maugré pour le mentionner, ainsi que Quiévrechat, donc une famille relativement de notables qui s'est expatriée en nos régions. On peut se poser la question est très simple, le cri du cœur, car Alix est classée comme de la famille apparentée, parenthèse, d'Audenarde. Voilà, vous savez tout comme ça. Jean le Châtelain fut nommé par son suzerain Jean Ier de Pamiers d'Audenarde dès le décès d'Alix de Rossoy, car la ville de Lessing était dans son douaire. Jean désigne un nouveau châtelain, c'est Jean, dit de Quiévrin, ou originaire de Quiévrin, Jean Després. Il décédera en juillet de l'an de grâce 1284, on va dire un mois important. Il eut 2 filles, pas n'importe lesquelles, Marie de Lessing, qui décéda à Gruning en 1309, et une certaine Marie d'Idépres, de Pratis en latin, qui décéda à 28 août, postérieure à 1330, postérieure au décès de son frère. Cette Catherine fit donc de six bonniers destinés à la construction de la chapelle en hommage à Notre-Dame. Chapelle construite suite à l'attentat, au sacrilège du fameux juif Guillaume en 1322, attentat qu'il réalisa dans les murs même de l'abbaye. Chapelle qui fut construite suivant les plans d'Yves. Le seul fils de la famille étant Yves, qui prendra l'habit le lendemain du décès de son père, c'est-à-dire à la Saint-Madeleine, le 22 juillet en 1284. Nous avons sa bibliographie grâce au recueil, mais grâce à d'autres pièces, comme entre autres le cartulaire de l'abbé. Il décéda, si on fait référence à notre calendrier grégorien, le 9 mars 1330. 1329, sinon on est dans le calendrier julien. Alors, élément important, je vous ai dit que la toponymie était importante dans les centuries. Plus de 200 citations. En effet, si je représente cela d'une manière un peu plus mathématique, au fur et à mesure que vous rapprochez de la Brabant, c'est-à-dire du Blanche-Courchet, ben le nombre de citations augmente d'une manière plus que significative. D'un point de vue mathématique, c'est 99,7%. Autant vous dire très hautement significatif. Exemple de toponymie. Le mont Aventine, le mont des quatre vents, brûlé de nuit sera vu. Le soleil se couche au couchant, tout simplement, c'est-à-dire à l'ouest. Le ciel sera vu, c'est un vers d'Yves, et je dirais le ciel obscur, la nuit tombée, tout un coup en flamme. Pas n'importe quelle Flandre, la Flandre électeur, c'est-à-dire la Flandre de l'Empire, la partie qui fut l'objet d'une négociation entre Charles le Chauve et Lautère, c'est-à-dire la ligne de démarcation étant le fleuve Lescaut. Donc la Flandre électeur de l'Empire correspond, je dirais, à la partie de Flandre de l'autre côté des Ardennes flamandes, comme on l'appelle aujourd'hui, et pour pouvoir faire une telle description, il n'y a pas de secret, il faut obligatoirement être dans une région que l'on appelle ici la terre des débats, c'est-à-dire au sud des monts d'Auvernais ou des Ardennes flamandes. Ces monts, les voici représentés sur une carte du XVIIIe siècle, la bonne ville de Renais, sa route qui conduit jusqu'à Tournai, et il est précisé une source, le Bron, proche de la Durenne. La Durenne, c'est ce petit cours d'eau qui coule au bas des monts renaisiens, à savoir les Pyrénées, comme il est dit dans l'œuvre, c'est-à-dire les pires, les chemins empierrés qui conduisent à la ville de Renais parmi ces monts. La Durenne étant un affluent de l'Arône, qui lui-même, ou elle-même plutôt, est un affluent de l'Escaut. Donc nous sommes bien dans cette région que nous connaissons, c'est-à-dire au sud des monts Pyrénées, qui conduisent donc à Renais. Un peu d'astrologie au passage. Les centuries prophéties de Michel Nostradamus, avec sa date de décès au passage, c'est pas moi qui le dis, dixit feu Jean-Charles de Fontbrune, qui dans un ouvrage tiré à 2 millions d'exemplaires, vous avez bien entendu Nostradamus historien, enfin je passe, a fait ses choux gras. L'auteur est décédé depuis, la question est-ce réellement bien de lui, enfin, cette discussion a été débattue à l'écran témoin de l'ARTBF il y a quelque temps de cela, entre Monsieur de Fontbrune, l'anonyme mentionné par Monsieur Rudy Cambrien. L'an 1999, 7 mois. grand débat sur les 7 mois. Le mois de juillet ou le mois d'août? Le ciel viendra un grand roi des frayeurs. Il faut se dire que tout phénomène astral est toujours pris comme annonciateur de grandes catastrophes, guerre, famine ou autre. Avant, après, Mars va régner par bonheur. Le Mars est le soleil qui régnera par bonheur avant et après l'éclipse. Nous avons là une manière très particulière de décrire une éclipse solaire, une éclipse totale. De Fontbrune l'a présenté comme l'invasion aérienne de la France. Je passe à la feuille du. Éclipse solaire totale de 1929 a eu lieu exactement à 12h24, si on fait notre référence astronomique. La nuance entre l'annonce et la réalité, la nuance du mois, réside dans l'utilisation de deux calendriers différents. En effet, aujourd'hui nous utilisons le calendrier grégorien et cette éclipse annoncée a bien eu lieu le 11 août 1999, mais en réalité, il y a un décalage par rapport au calendrier julien de 13 jours. Et le décrire en juillet, il n'y a rien d'extraordinaire pour l'époque, puisque à l'heure, il y a un 29 juillet. Dans le calendrier julien, donc la mention dans les centuries, correspond bien au moment, à savoir Nostradamus était parfaitement dans le calendrier julien, tout comme Yves dit de Lessing. Quand le défaut du soleil leur sera sur le plein du jour, c'est-à-dire au milieu de la journée, midi pour tout le monde, le monstre, l'effet monstrueux du phénomène apocalyptique sera vu de tous. Il est mentionné aussi que la langue arabe sera traduite en français. Que peut-on bien traduire de l'arabe en français? Ben, tout simplement, il faut savoir que toute abbaye possède des tables astronomiques. L'abbaye de Cambron en premier lieu. Les Arabes ont tout simplement récupéré l'œuvre de Ptolémée et elle a été traduite au 9e siècle par Tabith Ben Koura, qui lui-même fut traduit en latin, je dirais en Espagne, car il ne faut pas perdre de vue qu'au 15e siècle, les Arabes occupaient le sud de l'Espagne par les califats de Grenade et de Corfou. Et ce fut Isidore de Séville qui traduisit des tables arabes en latin et qui furent publiées sous le nom du roi de l'époque, d'où leur nom de table alphonsine. Ces mêmes tables furent traduites en français pour la Sorbonne et aussi chez nous, le latin fut repris par Henri de Bath de Malines, qui est un moine important, contemporain d'Yves, et qui, entre autres, diffusa toutes les tables sur, je dirais, notre royaume de Belgique aujourd'hui. Nous avons bien une démystification de la pseudo-invasion de la France et de l'école nostradamienne, bien entendu, par les tables astronomiques datant du Moyen-Âge. Elles sont annoncées, et elles sont annoncées pour plusieurs siècles. Elles sont d'ailleurs annotées et présentes pour l'abbaye de Cambron, dans la bibliothèque précieuse de l'Albertine à Bruxelles, pour ceux que ça intéresse. Attention, nous avons aussi dans toutes les abbayes du pays une étude intéressante, ce qu'on appelle de l'historiographie médiévale, qui a fait l'objet d'une thèse en 1995 à l'UCL, faisant cette référence entre la mention des phénomènes célestes au sens large du terme sur 6 siècles, c'est-à-dire depuis 395 jusqu'à l'an 1200. Rien que sur cette période de 6 siècles, on notait déjà dans les notices de nos abbayes, rien que 59 éclipses, le soleil devient comprises, 24 comètes et 11 aurores boréales. Le cas qui nous intéresse, c'est l'approche, bien entendu, de la période critique de l'an 1000. La fin du monde, diront certains, craint par la plupart des gens de l'époque. Imaginez votre position à la fin du deuxième millénaire. On se demandait si nos ordinateurs n'allaient pas bugger au passage. Passons. Mais une chose est certaine, à l'approche de cette période, les écrits et les notices deviennent trois fois plus importantes qu'en temps ordinaire. On parle d'une moyenne inférieure à 5, 15 mois ou même plus, pour certaines d'entre elles. Et si on s'intéresse à la partie astronomique, il y a aussi toute la problématique des tremblements de terre, des séismes. Et si on compare les séismes réellement enregistrés par rapport à ces mentions que l'on retrouve dans le pays, ben vous voyez tout de suite qu'il y a une distorsion tout à fait marquée. Il y a une reprise systématique de l'information dans toutes les abbayes d'Europe. Donc cette information est parfaitement disponible. Et l'approche de l'an 1000 est évidemment un grand problème. Tremblement de terre dans les centuries, il est mentionné texto une seule fois. 9e centurie, 31e, 4-1. Il a eu lieu, annoncé, à Mortara. Rien de plus facile, enseignant cette matière, j'ai interrogé mon collègue de l'université de Turin, le professeur Carrara, qui très vite... C'est du Nostras, c'est de la Cox, ni plus ni moins. Il n'y a jamais eu aucun tremblement de terre dans le passé, depuis le Moyen-Âge, dans cette bonne ville de Mortara. En réalité, l'identification de ce 4-1 est réalisée par rapport à une autre ville qui est Morlara. Donc il y a eu manipulation du verre, mais le tremblement de terre est tout sauf tellurique. Il y a par contre... à la mode cistercienne, des mentions intéressantes, et entre autres d'un tremblement de terre, en Nosigée, feu du centre de la terre. Nosigée en Verlan, c'est Sonégensis, c'est-à-dire la bonne ville de Soignies. Elle a eu lieu ici, juste à côté, et fera trembler autour de la cité neuve. Le lieu du tremblement est parfaitement mentionné. C'est une ville nouvelle, un village nouveau, à savoir Banneville, il porte encore ce nom-là aujourd'hui. De le préciser. Mont-Pyrénées le rendront consolé lorsque dans mai seront terres tremblées. Il a eu lieu, on peut dire que ce tremblement de terre qui a eu lieu à Neuville, à côté de Soignies, a eu des répercussions jusque dans nos Ardennes flamandes, les fameux pires conduisant à René. Quand, au mois de mai, il suffit de rechercher dans l'abbaye la plus proche, à savoir l'abbaye du Mont-Blandin à Gand, où il y a une mention parfaitement établie, les 5 dénones de mai en 1259, c'est-à-dire le 3 mai exactement. On peut même vous dire l'heure avec précision. On pourrait se dire, est-ce normal d'avoir un tremblement de terre dans nos régions? Alors, je peux vous dire que oui. Si on regarde les trois zones faillées du pays, à l'heure actuelle, nous avons le Graben du Rhin inférieur, qui possède, je dirais, la plus grande densité des tremblements de terre au niveau des références historiographiques. Nous avons la zone de cisaillement de Nord Artois, ce que les Français appellent communément pour le Nord la faille du Midi. Elle correspond à peu près à nos charbonnages, pour les mentionner. Et puis nous en avons une, qui est celle qui nous intéresse, qui longe, qui vient lécher, si je puis dire, la frontière nord de notre bonne province de Hainaut, à savoir la zone faillée de Sud-Brabant. Le dernier en date de cette zone faillée de Sud-Brabant a eu lieu, tiens, comme par hasard, à Audenarde, le 11 juin 1938, à quasiment midi, 11h58, avec une magnitude connue de 5,6 sur l'échelle de Richter. Vous mentionnez cette échelle. Ces informations sont parfaitement cataloguées ici à Uccle et ont fait l'objet d'une publication par le professeur Alexandre. La dernière en date, donc, est bien sur cette zone, je dirais, sur laquelle est décrit dans les centuries le fameux tremblement de terre de Soignies, pour ne pas dire de Neuville. Pour pouvoir repérer dans une œuvre qui doit contenir en principe un nombre important de vers, 4000 pour être exact, il est important de repérer tous les phénomènes astronomiques. Et comme l'œuvre est dite prophétique et astronomique à la fois, bah, il a fallu encoder et réaliser un logiciel qui n'existe pas sur le marché, afin de pouvoir analyser dans un premier temps et situer chaque phénomène astronomique, et dans un deuxième temps, comparer l'œuvre dite des fameuses prophéties, les centuries dans notre cas, par rapport à des textes de la main de Michel Notre-Dame, adressés à son fils César, ainsi qu'au roi de France de l'époque, Henri II. La parade, par analyse stylistique et statistique, est imparable. Il n'a jamais écrit l'œuvre, ce n'est pas de sa main. Premier phénomène, très frappant, une étoile chevelue, astre crinité. Un astre avec une chevelure n'est rien d'autre qu'une comète. Question. Où, quand, quelle est la comète? Les descriptions dans les centuries sont claires pour un astronome. Apparaîtra vers le septentrion, non loin de Cancer, l'étoile chevelue, Castor et Pollux, en F, astre crinité. Ben c'est clair. Septentrion est bien la direction du nord. Le Cancer est une constellation qui n'est pas très éloignée de Castor et Pollux, puisqu'ils font partie de la constellation des Gémeaux juste à côté. Donc nous avons là ce qu'on appelle en astronomie une position astrale. Constellation des Gémeaux, la voici représentée au XVIIIe siècle dans l'Atlas des constellations de Nicolas Defer, qui est l'astronome du Dauphin, donc le fils du roi de France à l'époque, nous sommes début XVIIIe. Aujourd'hui, on le représente de cette manière-ci, donc nous retrouvons Castor et Pollux, et les cancers sont ici par rapport à cette constellation. Dans la description, nous allons représenter une comète qui n'est pas n'importe laquelle, c'est la comète de Halley, la plus connue de toutes parmi les comètes. Disposée dans une disposition particulière, c'est-à-dire un peu comme l'autel dans l'église, face à la nef de l'église, c'est-à-dire dans un alignement astral parfait avec Castor et Pollux. Cette disposition astrale, on peut le faire au jour près et à l'heure près. Période de son apparition. Nous savons que Halley a une révolution courte de 76 années. Mourat de Rome, grand la nuit disparu, un peu devant monarque trucidé. Nous avons à Rome un monarque qui est le pape. Il décédera, je l'ai un peu aidé, c'est vrai que l'on puisse dire. Il est parfaitement connu parce que nous avons, un peu après le passage de la comète, le décès de Boniface VIII, le 11 octobre en 1303, c'est-à-dire exactement un mois après l'attentat d'Aglani. Le passage de la comète est référencé pour les astronomes le 23 septembre 1301, dans sa position la plus proche par rapport à la Terre, bien entendu. Halley nous est passé décrit dans les centuries, dans cet alignement quasiment parfait, la voici, par rapport à Castor et Pollux, sur un logiciel d'astronomie actuel, moderne, autre outil que nous avons à notre disposition, afin de situer sa position en temps universel à 23 heures. Attention, nous sommes évidemment en septembre, nous avons une heure d'avance, c'est-à-dire alignement parfait à minuit le 14 septembre 1301. Donc, description précise à l'heure précise. Si ça n'est pas une démonstration de la maîtrise de l'astronomie, difficile de faire mieux. Giotto di Bondone à Padoue a profité du passage de cette comète pour la représenter comme l'étoile de la nativité sur sa fresque rupestre de la chapelle de l'Arena à Padova, donc à Padoue, quand en 1304. Nous avons parfaitement une situation de l'époque. Et quand on parle de Giotto, ben nous avons donné son nom à la sonde qui est allée visiter le dernier passage de la comète en 1986. Sonde européenne, je tiens à la préciser, envoyée depuis Kourou. Les annales de l'abbaye du Mont Blandin à Lyon, j'en ai déjà parlé, intéressante, pour vous dire que c'est une pratique courante dans les notices de mentionner, d'associer un fait historique important avec un phénomène, soit astral, soit théorique, vu ou ressenti par tout un chacun. C'est marquer le phénomène historique dans le temps, du vécu du moment. Ici, pour l'occasion, on annonce l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, associé à au passage d'une comète dont on n'avait pas baptisé à l'époque, en 1066. Tiens, c'est encore une fois la comète de Halley, qui a été représentée sur la fameuse tapisserie de Bayeux, dite de la reine Mathilde Arena Orlando, en façon. Et la voici représentée sur la dite tapisserie, c'est le passage de la fameuse comète de Halley. Donc voici concrètement et en visuel, je dirais, elle a marqué l'esprit, elle a marqué pas mal de personnes, puisque l'on sait que si elle est passée dans notre ciel du 16 au 22 avril 1066, la bataille d'Hastings a eu lieu donc la même année, mais au mois d'octobre. Alors attention, rien que dans nos abbayes, on va dire belges, même si la Belgique n'existait pas à l'époque, nous retrouvons 11 citations liées à ce fait historique par rapport au passage de la comète de Halley. C'est pour vous dire le nombre de mentions disponibles, je dirais, dans les recueils de nos abbayes. La grande étoile, par 7 jours, brûlera. Nuit fera apparaître deux soleils. Le soleil, nous le connaissons, mais un deuxième soleil dans notre ciel, qui va même briller la nuit, lui, contrairement à l'autre, ben, c'est une manière subtile de désigner Nova, pas une supernova, une Nova. Nous en avons déjà quelques-unes dans notre historiographie, et celle-ci est précisée quand un grand pontife changera de terroir. Le grand pontife est un pape qui a décidé de mettre le siège de la papauté en Avignon, dans mes cités, Clément V, puisqu'il transférera la papauté en 1309, donc nous sommes début 14e. Éclipse de lune, et peut-être le soleil aussi. Près, loin, défaut, deux grands luminaires. Les deux grands luminaires mentionnés en astronomie moyenâgeuse, c'est le soleil et la lune. Celui qui éclaire nos journées et celui qui éclaire nos nuits, qui surviendra entre l'avril et le mois de mars. On aurait pu inverser. Je rappelle que nous sommes dans le calendrier julien pour l'époque. En recherche astronomique, nous pouvons les situer très facilement parce que nous avons une solaire et une lunaire qui se suivent à moins de 15 jours d'intervalle. Caractéristique, ben nous sommes en avril 1307, c'est pas à un autre moment. Le 3 avril de notre calendrier grégorien, ça nous porte au mois de mars, sans aucun problème. Celle-ci reste évidemment moins 13 jours en avril. Donc nous avons là parfaitement la bonne situation au niveau de la position de ces éclipses. Il y en a beaucoup mentionnés dans les centuries. La lune obscurcie au profond de ténèbres, associée à son frère. C'est une allusion à Henri de la Lune, c'est-à-dire Henri de Sel, Célinus, qui évidemment succédera après une bataille à Baudouin de Constantinople, notre comte de Hainaut et comte de Flandre, bien connu. Quand le défaut du soleil leur sera sur le plein jour, le monstre sera vu. Le monstre, nous savons que c'est le phénomène astronomique qui va marquer les esprits. Défaut de soleil, une éclipse. Il ne reste plus qu'à rechercher cette éclipse que nous avons déjà trouvée en 1999. mais qui est mentionné aussi à une autre période, c'est l'éclipse solaire totale du 8 novembre 1314. Pourquoi cette date? C'est une date qui marque pour le début de la première moitié du XIVe siècle, car Maurice Druon, bien connu dans ses Rois maudits, a associé cette éclipse à la mort de Philippe le Bel, Philippe IV le Bel. Je lis texto, bien que l'on fût au milieu de la journée, c'est-à-dire à midi, une obscurité rapide, anormale, angoissante, enveloppait le château. L'éclipse annoncée, annoncée où? Dans les notices astronomiques, dans les tables astronomiques de nos abbayes, était en cours et maintenant totalement couvrait le royaume de France. Archifaux. Enregistrons cela dans le logiciel astronomique. Je dirais que l'ombre, si elle touche à peine l'Afrique centrale et l'Atlantique sud, ce sera très bien. Le royaume de France ne sera jamais obscurci à l'heure dite et lors de son passage. Donc ce qui est écrit est annoncé, mais on peut se tromper de couverture, comme des couvertures nuageuses. Apocalypse selon saint Jean. Une graine de feu, je ne veux pas le passer en revue, mais souvent associée au passage d'une grande étoile. Cette grande étoile qui passe n'est rien d'autre qu'une comète. Grand feu du ciel en trois nuits tombera. Bien peu après, la terre tremblera. Autant dire qu'il y a des impacts qui seront ressentis par tout à chacun. Pierre en tussie par pluie tomberont. Nous avons là une description parfaite d'une pluie d'astéroïdes qui a eu lieu en Toscane, c'est-à-dire en Italie, et ce sont des météorites qui ont été associés au passage de la comète Somo en 1264. Elle a d'ailleurs été dans les notices prises en référence pour annoncer la future invasion du royaume des deux Siciles par Charles Ier d'Anjou sur commande du pape et sous couverture du roi de France puisque c'était son frère. Le zodiaque et les astres errants. Attention, nous sommes au Moyen-Âge. Le centre du monde, c'est la Terre. La Lune et le Soleil tournant autour de la Terre. Donc on est loin de nos positions astronomiques d'aujourd'hui. Le zodiaque, décrit ici par Barthélemy d'Anglais, donc c'est un manuscrit qui date de l'illuminure du XIVe siècle, bien connu, dans les centuries, on fait une mention intéressante. Aris, Taurus, Cancer, Léo, la Vierge. Voix, certains ont écrit bois, je ne demande pourquoi, et citer les lettres cachées au cierge. Je tiens à préciser que c'est la deuxième mention de l'écriture des vers à la lueur d'un cierge. Puisque nous avons déjà cela dès le début de la première centurie. Alors, que manque-t-il? Nous allons bien avoir notre bélier, notre taureau, forcément. Nous allons retrouver sans problème ce qu'on s'attend à avoir, c'est-à-dire notre lion, la Vierge, voilà, notre cancer. Et il nous manque les deux petits personnages ici, c'est-à-dire les gémeaux. Voix et citer les lettres cachées à la cierge, c'est-à-dire dans l'énumération, on a volontairement, plutôt que de parler des gémeaux, on a oublié de les mentionner dans un ordre d'une séquence bien précise, une démarche typiquement cistercienne pour cacher son vocable. Tremblement de terre si fort au mois de mai, Saturne, Capère, Jupiter, Mercure au bœuf, c'est-à-dire au taureau, Vénus aussi, tiens, Cancer, Mars en honnête. Voilà une grande réflexion. Le tremblement de terre, nous le connaissons déjà. Il a eu lieu le 3 mai 1259. En représentant la position astrale des constellations et entre autres des planètes mentionnées, je peux vous dire que ce vers a été un peu manipulé, pour ne pas dire fortement, de la main d'un certain Michel. Michelet pour les intimes, puisque c'est le plus jeune d'une longue série de la lignée. Et cette position est claire en astronomie. Vénus, Mars, la planète, Mercure sont bien au taureau, donc dans la constellation du taureau. Saturne est bien dans le bélier. Et Jupiter, ben les nonnés, c'est pas la nonne du coin, non, c'est la Vierge. Donc la constellation de la Vierge. Voilà son description traduite à l'aide évidemment du logiciel astronomique. Alors nous parlons aussi dans l'œuvre de transit planétaire. Entre autres, on peut parler de transit pour la planète Vénus, mais aussi pour la planète Mercure. Un transit, c'est le passage de la planète devant le Soleil. Autant vous dire que la planète minuscule par rapport à son diamètre paraît tout à fait diffus, anodin, un petit point noir. Cette photo-ci a été prise par un astronome tunisien le 8 juin 2004 et nous est réapparu cette année, le jour le plus long, on va dire pendant la nuit de préférence, le 6 juin de cette année. Voilà, 8 années plus tard. Si vous voulez refaire cette même observation, ben, c'est raté. Car il faudra transmettre l'information à notre descendance pour 2117. En effet, les transits nous sont connus. Voici la mention dans les centuries. Lorsque Vénus du Soleil sera couvert, le Soleil couvert, bah, forcément, par notre planète Vénus, sous les splendeurs, bah, représentera une forme occulte, noire. Mercure au feu les aura découverts, c'est-à-dire que dans la position, la planète Mercure va les rejoindre, sans recouvrir le Soleil, bien entendu. Voilà une autre description astronomique très claire quand on connaît le rythme des transits. Nous avons une séquence de 4 transits sur une période de 243 ans. Cette période est dans une séquence 8, 121, 8, 105 ans et demi. Voilà la séquence des 243 ans. C'est-à-dire qu'en 2004, ben, nous étions, si je puis dire, dans la version 121. 8 années plus tard, nous avons l'occasion et le bénéfice de pouvoir observer le transit de Vénus. Donc, le 6 juin 2017, c'est plus de 105 ans. Donc, nous sommes...
105.
Voilà, donc ce transit est connu. C'est un rythme bien précis. La description avec Mercure va nous donner la réponse. Je peux vous dire qu'au XVIe siècle, à la période de Michel de Notre-Dame, il n'y a eu aucun transit sur cette période-là dans sa séquence. Par contre, marqué pour Yves de Lessines, nous avons le 25 mai 1275 et le 23 mai 1283, donc un rythme de 8 années, parfaitement repéré dans les centuries grâce au logiciel astronomique. En voici une, c'est pour moi la plus belle. Quand la plupart à Mars seront conjoints, le grand problème sera de savoir si on parle de la planète Mars ou si on parle, comme tout à l'heure, de son défaut, c'est-à-dire du Soleil. Traduit, quand la plupart des planètes étaient dans une même constellation. Autant vous dire que ce phénomène n'arrive pas souvent. Pour ne pas dire d'une manière rarissime. Une représentation du 15e, on peut voir que cette fois-ci, le Soleil ne tourne plus autour de la Terre, le voici au centre, on est bien plus tard, 2 siècles plus tard, et nous voici par rapport au zodiaque, c'est une enluminure rarissime du 15e siècle, où, grâce au logiciel astronomique, vous mentionnez, c'est le redshift, je vais pouvoir retrouver avec Mars et toutes les autres planètes dans la même constellation du taureau. Voici. La datation est très simple, ça a eu lieu à un seul moment, en juin 1146. Je peux vous dire qu'il y en a une deuxième, quelques mois auparavant, au mois d'avril. Et là, ils sont en association avec le Soleil. Il manque bien une planète, mais je dirais, voilà le regroupement qui a eu lieu sur un moment donné, parfaitement décrit et connu de celui qui est le véritable auteur de l'œuvre dite les centuries.
La suite attendue, ben je dirais que pour certains d'entre vous, vous avez eu l'occasion de lire mon ouvrage. Il est enfin paru après beaucoup de demandes aux éditions La Providence au mois de mai de cette année. Et je dirais que bonne lecture, il est tout à fait disponible ici au magasin de vente de l'hôpital ou moi-même, ou dans une bonne librairie qui se respecte, ou encore sur le site de mon éditeur. Juste une chose, si vous approchez mon site centuria.be, faites-vous connaître, inscrivez-vous, car bientôt le logiciel d'analyse des centuries sera disponible en direct en ligne. Voilà. Cadeau. Je vous remercie de votre attention.